Bonjour François.
Ouais, bonjour Yannick.
Comment vas-tu bien aujourd'hui?
La Mégateuf.
C'est la Mégateuf.
Ceci est une référence de vieux.
Oui, de très vieux, c'est clair. On va faire un petit... moi j'avais une question à te poser. Quelque chose qui m'est venu en tête un petit peu comme ça la dernière fois sur ce que j'appelle la préparation de partie. On entend souvent les maîtres de jeu qui font... Qui pour ne pas faire de partie le week-end parce que leurs joueurs leur demandent ou simplement... parce qu'ils se sentent pas prêts, disent « je n'ai pas préparé la partie ». Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, c'est une phrase qui m'arrive d'utiliser aussi.
D'accord. Alors, moi, la question que je veux poser, parce que tout le monde ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, c'est quoi la préparation d'une partie? C'est quoi préparer une partie, en fait? En fait, est-ce que toi, tu prépares tes parties? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour préparer une partie?
Non, la notion de préparation de partie, elle est variable.
Pourquoi? Justement, dis-moi une des manières que tu as, toi, de préparer une partie.
Alors, ma manière de préparer une partie, en général, ça va être de relire mes notes, ouais. D'essayer de me souvenir ce qu'on a fait la dernière fois pour éventuellement prendre quelques notes et me fixer des lignes directrices. Mais là, ça, c'est pour le côté préparer une partie où il n'y a rien d'écrit à l'avance.
Ouais, alors imagine que tu veuilles préparer une partie, par exemple, d'un scénario qui a déjà été écrit. Donc tu prends un casus belli, tu prends n'importe quoi, et t'as un scénario déjà écrit par quelqu'un d'autre, et tu dois préparer la partie. Qu'est-ce que tu fais?
Lire le scénario déjà.
Ouais, lire le scénario.
Lire le scénario, se l'approprier, voir ce qu'on va faire des stats si elles sont pas... Ouais. A priori, si le scénario est écrit, il y a déjà des stats.
Ouais. Mais... Concrètement, ça te prend du temps, par exemple, de préparer une partie?
Ça me prend toujours un peu de temps parce que je suis un gros glandeur.
Ouais.
Franchement, ça va dépendre des tables, mais pour les parties que je fais d'habitude avec des potes, comme la plupart du temps, c'est sur des scénarios écrits à la volée, enfin, ou des campagnes inventées, l'étape de préparation, c'est ça, c'est de relire les notes, d'essayer de se souvenir de ce qu'on a fait, de voir où on veut aller. Comme sur ces parties-là, de toute façon, je m'appuie beaucoup sur ce que les joueurs amènent pendant la partie. La préparation, elle sert un peu, mais elle ne sert pas non plus énormément. Ça m'est souvent arrivé de préparer des trucs en disant « tiens, ouais, je vais essayer de faire ça », et puis que ça éclate en vol parce que les joueurs avaient une idée différente, et finalement, c'était très bien aussi, et je suivais ça. Pour revenir au côté scénario préparé, Archipel, je vais revenir encore à Archipel, parce que ça a été vraiment
un bon exemple.
C'est la campagne vraiment que j'ai fait jouer en suivant du matériel écrit, même si pour le compte, très rapidement, je me suis retrouvé à rajouter des trucs et à suivre des directions différentes parce que les joueurs suivaient des pistes qui n'étaient pas traitées dans les bouquins. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Moi, je peux t'expliquer, par exemple, ma manière que j'ai de préparer, moi, concrètement.
Mais j'allais te demander parce que là, je me sentais un peu...
Non, pas de souci. Moi, concrètement, préparer un scénario, pour moi, c'est... Effectivement, lire ses notes, lire le scénario s'il est déjà écrit par quelqu'un d'autre, essayer de créer les enchaînements logiques entre les scènes que j'ai imaginées. C'est-à-dire que quand je vais écrire un scénario ou quand je vais lire le scénario de quelqu'un d'autre, je vais vouloir imaginer les enchaînements logiques. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'essayer d'avoir l'entièreté du scénario dans la tête. Préparer un scénario, c'est aussi voir comment je peux intégrer mes joueurs dans la trame narrative. C'est-à-dire que la plupart du temps, que ce soit un scénario que j'ai écrit ou un scénario du commerce, on va dire, déjà écrit par quelqu'un d'autre, les personnages ne sont pas forcément impliqués dans le truc. Alors, donc si j'écris moi un scénario, forcément je vais le créer autour des joueurs, mais si c'est un scénario déjà écrit par quelqu'un d'autre, il faut que je vois comment les impliquer.
Non, je suis d'accord, effectivement, toujours sur Archipel, c'était effectivement l'une des grosses étapes de préparation de la partie, c'était sachant quels étaient mes persos et quels étaient leur centre d'intérêt ou leur façon de se comporter. Il y avait effectivement une partie de la préparation qui consistait à dire ok, comment je vais les accrocher, ou attention, tel perso est une palouffe, donc elle risque d'avoir ce genre de comportement.
Exactement, là tu me dois sur un truc intéressant, c'est elle risque d'avoir tel comportement. Lorsque les scènes sont décrites, moi je vais imaginer comment est-ce que mes joueurs vont probablement réagir dans telle situation. Bon, on sait que ça arrive normalement, ça n'arrive pas toujours, évidemment, mais globalement, quand même, les joueurs sont là pour à peu près suivre ton scénario, sauf si on part vraiment sur un truc très ouvert. Mais globalement, tu as un scénario, tu sais à peu près comment ils vont réagir, et donc je vais imaginer des morceaux de scène à ajouter dedans. C'est-à-dire que dans une description de scène très classique, je vais pouvoir rajouter des éléments, me dire, un combattant, effectivement, nain, avec une armure lourde, je vais le voir, il va faire à peu près ça dans le combat, et donc l'autre, il va réagir de telle ou telle manière. Donc préparer un scénario, c'est se donner des billes pour pouvoir improviser par la suite. C'est-à-dire qu'on n'improvise jamais à partir de rien. Il faut d'avoir préparé son improvisation. Or, quand on est en train de faire de la mise en scène, en jeu de rôle, on est dans un cadre semi-rigide où on a effectivement un cadre, mais en même temps, les joueurs vont évoluer dedans et vont pouvoir faire à peu près globalement ce qu'ils veulent jusqu'à la fin de la scène, et ainsi de suite, de scène en scène. Pour moi, la préparation, c'est lire, donc préparer les réactions, prévoir les réactions des joueurs. Et d'ailleurs, je suis très gêné quand un joueur annule une partie et que je continue à jouer, parce que tout le pan de travail que j'ai fait mentalement ou avec mes notes pour préparer cette partie-là tombe à l'eau du fait que le personnage n'est plus là. Et encore mieux d'ailleurs, il m'arrive très souvent d'imaginer des relations entre eux, c'est-à-dire de me dire tel personnage va faire ça, tel autre va réagir comme ci, etc. Ça va sans doute trop loin par rapport à ce qu'on devrait faire en termes de préparation, mais ça m'arrive aussi. Ouais.
Mais le côté préparation en fonction de tes joueurs, justement, l'idée ça peut être aussi de voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans ton scénario pour intéresser chaque personnage, pour que chaque joueur ait vraiment son petit moment.
Ouais,
c'est même pas là, c'est même plus tant l'idée de créer les accroches que de créer que de penser aux opportunités que tu vas pouvoir mettre dans la partie pour que chaque personnage, chaque joueur se sente un peu valorisé un moment ou un autre.
Valorisé et
individuellement ou en groupe, parce qu'il faut aussi gérer ça comme un groupe. Mais ouais, s'assurer vraiment que chaque joueur va avoir au moins un moment, ventiler correctement les moments entre tout le monde pour que tout le monde ait son moment de gloire ou apporte quelque chose à la partie.
D'accord.
Bon, sauf si tu as des joueurs qui sont en mode passager, qui aiment bien être posés, regarder les autres joueurs, mais ça...
Ça arrive. Donc on a cette préparation donc, qui consiste à faire tous ces événements-là et à voir comment est-ce qu'on peut impliquer les joueurs dans la partie. Il y a aussi une phase qui est la création, technique, c'est-à-dire la mise en place, par exemple, la modification des statistiques de certains monstres pour qu'ils s'adaptent à peu près à ce qu'on veut, veut produire comme effet. Et cette adaptation elle-même, si les statistiques, elle est faite aussi un petit peu à la volée au moment... Elle ne devrait pas, mais en fait, elle est aussi faite un petit peu à la volée au moment où on joue. On a aussi cette phase de préparation technique qui peut rentrer en jeu.
Ça va être plus ou moins long selon les jeux.
Et ça va être plus ou moins long selon les jeux, justement, et tu me permets de rebondir. Moi, je prends comme base que pour préparer un scénario, il me faut à peu près, ça va vous paraître beaucoup, mais à peu près autant de temps de préparation que de jeu. C'est-à-dire, si j'ai une partie qui va durer 6 heures, généralement, je mets à peu près 6 heures à la préparer. Je dis 6 heures, c'est pas 6 heures d'affilée à écrire mes notes sur un coin de table. Ça peut être, par exemple, si j'ai une partie de prévue le vendredi et qu'on me prévient le lundi, c'est passer la semaine à réfléchir à comment ça va se passer. Donc, je l'ai dans la tête le soir.
C'est très difficile de quantifier le temps qui passe. Par contre, ça tourne dans la tête. Tu sais pas. Enfin, ça tourne en tête un peu près constamment. Tu es sous la douche, tu vas réfléchir. Tiens, telle partie, je vais faire ça.
C'est pour ça que je dis que comme ça m'occupe une partie de l'esprit pendant assez longtemps, j'estime de manière extrêmement pifométrique que je mets à peu près autant de temps à préparer qu'à jouer. Et ça mène à un truc intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les joueurs ayant de moins en moins de temps pour jouer, les MJ ont aussi de moins en moins de temps pour préparer, avec tout ce qui va autour, toute la vie de famille, enfin toutes les choses comme ça.
Et pour le coup, les scénarios très écrits ne sont pas forcément la réponse à cette problématique. Si on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, un scénario qui est très écrit, c'est un scénario qu'il va falloir prendre le temps de lire, d'assimiler et surtout d'adapter à ta configuration de ta table.
Oui, exactement. Préparation, c'est plus une adaptation d'ailleurs qu'autre chose, lorsque c'est un scénario écrit.
Mmh. C'est comment est-ce que je vais m'approprier le scénario et le faire jouer, sachant qui sont mes joueurs et qui sont leurs persos.
Voilà.
Donc pour des maîtres de jeu qui ont moins de temps, il vaut mieux aller vers des méthodes de jeu qui s'appuient sur moins de préparation, c'est-à-dire sur plus d'improvisation, plus d'interaction, plus d'apport des joueurs en cours de partie.
Donc c'est là qu'on arrive finalement sur les jeux. Avant on était sur des jeux plus traditionnels, moi je vais appeler ça comme ça, même si c'est un peu bizarre comme nom à dire, mais...
Tu entends déjà des gens qui hurlent.
J'entends déjà qui hurlent, ouais. Mais bon, moi je vais appeler ça traditionnel pour l'instant, même si c'est pas très adapté. Et on en arrive avec un truc assez récent entre guillemets, ça a déjà quelques années, de vouloir modifier ça et de vouloir simplifier notamment cette phase de préparation. C'est-à-dire qu'on on parle beaucoup de simplifier le jeu lui-même, la partie jeu, mais je découvre de plus en plus de jeux, et en plus on a un ami qui travaille beaucoup à ce sujet, qui est Eric, sur la création de jeux avec peu ou pas de préparation. Donc ça fait un bout de temps que ça a été initié, ou alors même avec des maîtres de jeu tournants, donc ça implique aussi qu'il y ait une préparation un petit peu différente. Quand on joue à un jeu comme Apocalypse World, enfin tous les machins World, c'est même une force de ce jeu-là, de dire soyez surpris par vos joueurs, écoutez vos joueurs, rebondissez là-dessus. Quand on avait joué au Royaume Troublé, qui était The Puddle, il me semble, à l'époque, le système de jeu, il s'appelait le Puddle. L'idée, c'est que chaque joueur faisait que 3 jets dans la partie, à peu près, et que si tu réussissais particulièrement bien ton jet, tu pouvais, toi, en tant que joueur, influer sur la narration et la faire partir dans une direction complètement différente. Si tu faisais un jet de recherche d'informations et que tu réussissais particulièrement bien ton jet, au lieu que ce soit le maître de jeu qui décrive l'indice en question, c'était le joueur qui disait voilà, j'ai trouvé tel indice qui m'emmène vers tel autre truc.
Alors à mon sens, faut faire gaffe avec ce genre de méthode, j'aime bien, ouais. Mais le problème c'est que si tu introduis ce genre de mécanique dans un jeu qui par ailleurs a un fonctionnement traditionnel, tu crées quelque chose finalement de plus, à mon avis, tu crées quelque chose de plus difficile à gérer. Si le maître de jeu prépare son scénario, mais que la mécanique du jeu permet aux joueurs d'apporter des rebondissements ou des éléments inattendus, ça fout en l'air la préparation du meneur. Donc il faut finalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire super gaffe avec ces méthodes-là, que je trouve bien, mais il faut finalement les utiliser en cherchant autant que faire se peut à s'éloigner des structures de scénario traditionnelles pour pas avoir cette espèce de. Enfin, pour pas se retrouver avec le cul entre deux chaises, pour ainsi dire. Où finalement, c'est le maître de jeu va avoir préparé parce qu'il a quand même l'habitude de préparer avec le système. Le jeu a l'air d'être fait pour être un temps soit peu préparé. Sauf que ça lui éclate à la gueule parce que les joueurs font « Oui, mais non, finalement, le méchant, en fait, c'est mon cousin et on était super potes. »
Ah oui, il faut savoir rebondir dessus.
Voilà. Mais et plus tu prépares, plus tu as le risque d'être bloqué. Quand
d'être rigide,
joueur,
en fait.
D'être incapable de t'adapter à quelque chose qui va trop chambouler ce que tu as fait.
D'accord.
Donc, dans les jeux à narration partagée, il faut, j'ai l'impression qu'il vaut mieux partir sur quelque chose qui va vraiment se construire au fil de la partie. Et on s'éloigne des structures de parties de jeu de rôle où le meneur cherche à avoir préparé une histoire à faire jouer, et il faut aller vers quelque chose où finalement personne ne sait trop l'histoire qui va se créer et que personne n'ait à l'avance l'impression qu'il a le contrôle de l'histoire.
C'est exactement le sens du machin word quand il dit écoutez vos joueurs et soyez surpris par eux parce que vous savez pas du tout vous-même dans quelle direction vous allez aller. Comme le dernier jeu de LG, enfin pas le dernier, Oltrey, il est exactement dans ce principe-là, c'est-à-dire que tout le monde découvre au fur et à mesure les choses.
Oltrey, t'as une phase de préparation, mais qui est vraiment en amont au moment où tu prépares le cadre dans lequel va se dérouler la partie, et tu poses beaucoup d'éléments, mais ça, tu ne poses que des éléments et des pistes. Et ensuite, t'es effectivement dans une logique où les joueurs apportent beaucoup de choses, où le meneur. Alors, d'une partie sur l'autre, peut avoir un peu de préparation à faire s'il a envie de poser des choses. Parce que le jeu, Oltrey, est fait de telle manière que le maître de jeu peut quand même lui-même injecter des idées. C'est à mon avis faire de la préparation sur Oltrey, se pointer en disant « Ok, aujourd'hui, je voudrais poser ça, ça, ça comme élément », mais sans savoir comment ça va se lancer, à quel moment ça va se lancer, ni finalement comment les choses vont se positionner. Ça marche, enfin, c'est, à mon avis, c'est comme ça qui peut être intéressant de faire. Tu arrives, tu dis, ok, aujourd'hui, je voudrais bien parler d'une histoire d'orphelin. Je voudrais mettre les joueurs dans une situation où ils vont devoir gérer des orphelins et leur faire une espèce de... J'ai envie de faire un petit délire où les mecs vont se retrouver à gérer des mômes alors que c'est pas leur boulot. À la limite, ça peut suffire et t'as pas forcément besoin d'avoir posé plus de choses. Au contraire, t'as ça dans un coin de ton esprit et tu te mets en embuscade à attendre en fonction de ce que les joueurs lancent. Et tu attends le moment où il va y avoir un joueur qui va te parler en tirant sa carte d'exploration, à dire « Ouais, bah donc, on trouve une carriole incendiée. » Il fait « Ok, pas de problème, je pose mes orphelins. » Ou
ouais, mais est-ce qu'on n'est pas là, encore une fois, dans une... Là, on est toujours dans une préparation.
Ouais,
mais c'est une préparation différente.
Oui, c'est une préparation qui intègre le fait qu'une partie du scénario est amenée par les joueurs. Et avec des systèmes de jeu comme Puddle, des systèmes où il y a vraiment ces éléments de narration partagés, c'est le genre de préparation qu'il faut faire. Tu arrives avec des idées que tu as envie de placer.
Ouais.
Exactement comme certains joueurs vont arriver à ces parties-là en ayant des idées qu'ils ont envie de placer. Je suis joueur à Oltrey. Je peux très bien me retrouver à arriver à une partie en me disant « Eh oui, mais aujourd'hui, j'aimerais bien quand même... J'ai lu un truc, j'ai vu des belles illustrations de Sphinx. Ouais, allez, si j'ai l'occasion, je pose un Sphinx. Je vais parler d'un Sphinx et voir ce que le meneur va en faire. »
Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'on n'est pas dans le cadre là d'une préparation comme on préparerait une improvisation, tu sais, les gens qui font du... des spectacles d'improvisation.
Ne sachant pas très bien comment ça fonctionne, je ne sais pas si la comparaison tient, mais peut-être.
Ouais. Moi, j'avais déjà vu ou lu des choses comme ça. L'idée, c'est exactement la même. C'était de dire on a un ensemble d'idées, et en fonction des mots qui vont être tirés, parce que les spectacles, les joutes d'improvisation, les gens tirent des mots ou demandent des mots dans le public, et en fait, ils raccrochent les wagons avec ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils ont déjà préparé. Ça leur évite normalement de partir sur des improvisations totales qui donnent sur quelque chose qu'on maîtrise plus du tout, et on ne sait pas si ça va être bien ou mal. L'improvisation, pour moi, elle part toujours sur une base préétablie d'un ensemble de connaissances, soit parce que tu connais bien ton monde, soit tu connais bien ton univers, soit tu connais bien tes joueurs et tes personnages. Et dans ce cas-là, tu as déjà en tête un certain nombre d'éléments auxquels te raccrocher. Donc là, sur des jeux type Poltré, comme tu précises, ou Puddle, ou Machin World, on peut toujours venir quand même avec des éléments préparés. Donc le maître de jeu, finalement, il a quand même et toujours un peu ce travail à faire s'il veut contrôler une partie du jeu, sachant qu'il n'est pas du tout obligé. Nous, les parties des Royaumes Troublés, il me semble, on verra bien avec si quelqu'un me détrompe parmi les anciens joueurs, mais il me semble que c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que le maître de jeu arrivait avec une idée de base qui partait normalement en vrille dès le premier jet de dés. Vraiment.
Et si le meneur arrive juste avec une idée de base et que ça part en vrille au premier jet de dés, c'est pas gênant. Si le meneur arrive avec 5 heures de boulot sous le coude, où il a préparé plein de trucs et où tout ça tombe en ruine au premier jet de dés, là il y a un problème.
Bien sûr, il y a un problème. Donc là, on voit bien qu'on est dans un allègement de la préparation, ou j'allais dire dans une préparation différente des jeux de rôle traditionnels.
C'est une situation où on se rend compte qu'il faut arrêter en tant que maître de jeu de croire qu'on écrit une fiction. Mais vraiment qu'on est en train de la rédiger et de la structurer avant la partie, c'est pas ça. Enfin, plus tes joueurs sont actifs, plus tes joueurs amènent d'éléments, plus il faut comprendre que tu n'es pas en train d'écrire une fiction. Si ton trip c'est d'écrire des fictions bien structurées, il faut faire du roman.
Oui, il faut faire du roman ou des nouvelles. Oui, il faut pas.
Mais ce genre de problématique, je me le suis pris quelques fois à dire ok, la partie va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et puis t'arrives et mais non les gars c'est par là. Alors soit ça s'effondre et c'est minable, soit tu te retrouves à raccrocher les wagons comme tu peux, limite à forcer tes joueurs dans la direction où tu veux, et là ça peut être minable. Ou alors si ça se trouve, tu peux te retrouver à rebondir correctement sur ce que les joueurs amènent et raccrocher tes idées à leur et au final faire quasiment ce que tu voulais. Avec en plus tes joueurs qui ont l'impression qu'ils ont. Enfin non, c'est pas l'impression. Et avec tes joueurs qui ont en plus créé leur propre histoire. Les deux se mêlant. Ça c'est le pied, mais c'est pas facile.
C'est pas facile. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que, à ta connaissance, il existe des jeux ou des concepts de jeux pour lesquels il n'y a strictement aucune préparation à faire pour venir jouer, à part toujours en restant dans le domaine du jeu de rôle, pas dans le domaine du freeform ou du grandeur nature ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus préparées pour le coup, ou des jeux de rôle à narration purement partagée, tu sais, où tu tires des cartes pour donner des éléments de jeu si tu veux, là ça peut être aussi un truc comme ça, mais est-ce que à ta connaissance il y a des jeux qui ne demandent vraiment aucune préparation, c'est-à-dire tout le monde vient, MJ comme joueur, il débarque, il fout les pieds sous la table et il commence à jouer.
Les White Books sur lesquels bosse Eric en ce moment ont l'air d'être un peu de ce genre.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vu que c'est la narration est partagée entre les différents joueurs, chaque joueur en fonction de son livret à la gestion de certains aspects de la partie. Et la partie se crée comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est peut-être un exemple.
Ok. Moi, j'ai pas d'exemple en particulier. Mais... Non, enfin, j'ai eu un exemple avec Machin World, lorsque j'avais voulu expliquer le système de jeu à des amis en leur disant que finalement c'était très simple, il suffisait pour le MJ, et je trouvais que c'était de la triche en fait, de dire que le MJ débarque et qu'il fasse faire son scénario exclusivement par les joueurs, c'est-à-dire il rebondit exclusivement sur les idées des joueurs, et lui ne sert qu'à coller les scènes et les idées des joueurs entre elles. Moi j'étais parti là-dessus en disant « Ah, vous allez voir, c'est trop nul, il n'y a que ça. » Et à la fin, attends, je termine juste ça, et à la fin ça avait donné une pure partie qui avait duré une heure et demie à peu près, et avec une vraie histoire construite super intéressante sur plein de domaines. Donc j'avais été pris à mon propre piège en essayant de leur expliquer quelque chose qui à mon sens n'était pas bon et qui finalement s'est révélé très intéressant.
Le rôle du meneur comme finalement élément qui rassemble et qui consolide ce que les joueurs apportent, c'est pas mal comme idée en fait.
Non, c'est pas mal du tout. Mais c'est un rôle différent, et il faut arriver à assumer ce rôle différent de colleur de scène, quoi.
Vous voulez jouer à quoi ? Ok, ça se passe comme ça.
Sauf que moi, j'avais eu cette impression que c'était entre guillemets de la triche, et que et que
de la triche.
Ouais, de la triche, parce que j'ai toujours en tête cette impression que le travail du MJ, c'est de proposer quelque chose, c'est de préparer quelque chose et de le raconter aux joueurs. Et de faire rebondir ces joueurs dans cette espèce d'arène mentale que le maître de jeu s'est créé. Or, on arrive sur ces nouveaux jeux, j'appelle ça nouveau, c'est pas exactement nouveau, mais sur ce type de jeu-là, sans préparation ou à narration partagée, ou à tout mélanger, avec, où le MJ finalement est juste un joueur exactement comme les autres.
Avec un rôle particulier.
Avec un, ouais, alors ce qui était déjà le cas avant, il avait déjà un rôle particulier, mais avec encore moins de prérogatives qu'avant. Sachant que l'idée, c'est qu'il soit lui aussi surpris et que. Effectivement, on n'est plus dans un rôle de raconteur d'histoire, on est dans un rôle d'animateur. C'est-à-dire qu'on dérive le rôle du raconteur d'histoire vers l'animateur.
En même temps, au tout début, à l'origine du jeu de rôle, le meneur n'avait pas vraiment ce rôle de raconteur d'histoire. C'était le gars qui avait le scénario et qui décrivait ce qui se passait, et qui servait d'arbitre et qui finalement servait d'interface entre les joueurs. Enfin, entre les autres joueurs et le scénario.
En fait, t'as beaucoup de rôles. T'as un rôle d'animateur, t'as un rôle de metteur en scène, t'as un rôle d'arbitre, t'as un rôle de raconteur aussi. T'avais tous ces rôles-là. Et on est en train d'éclater un petit peu les rôles en plein de choses. C'est-à-dire que là, on n'a plus le rôle finalement. Tu vois, quand tu joues à The Puddle, le maître de jeu, il a effectivement un rôle de metteur en scène, et encore, mais il a plus ce rôle d'apporteur d'histoire, quoi, ou moins.
Quand on jouait des bons vieux modules de donjons à l'époque, le meneur apportait des éléments d'histoire, mais finalement il n'était pas dans un rôle de raconteur d'histoire ou de créateur.
De rapporteur d'histoire en tout cas, parce qu'il lisait un scénario ou un module.
Il lisait un scénario. Il servait d'interface entre les joueurs et une aventure. Il y apportait des éléments à lui pour étoffer ou pour mettre de la couleur, on va dire. Dans l'histoire, mais il y avait moins ce côté scénario de fiction que ce qu'on a eu plus tard avec, par exemple, avec Toulouse peut-être.
Ouais.
Mais Donj c'était par exemple peut-être plus du jeu d'aventure plus que du jeu d'histoire.
D'histoire dans le sens de raconter une histoire.
Oui. C'est ce que je veux dire.
Ouais.
Le jeu d'aventure, tu racontes une histoire, mais là, il y avait moins ce côté storyteller.
Ouais.
En fait, je sais pas si les choses ont changé au début des années 90 avec Vampire, où tout d'un coup on a eu. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il y a eu tout d'un coup ce côté. Oui, mais en fait, le meneur de jeu, il raconte une histoire.
Pourtant, c'était un jeu de rôle dit traditionnel. Ben, tu vois, c'était. Oh, il n'y avait pas de compter vos joueurs, quoi.
Quand on joue, tout à fait. C'est ça qui est drôle.
Ouais, c'est ça. T'es là pour. Ouais, là, c'est marrant comme exemple vampire, parce qu'on est dans l'exact opposé. On est vraiment dans le truc. Vous êtes là pour raconter une histoire, écoutez vos joueurs, enfin, impliquez-les dans l'histoire, mais en même temps, c'est quand même votre histoire et c'est vous qui la racontez. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais compris à l'époque, même si j'ai toujours joué à Vampire ou Mage, de manière très, encore une fois, très traditionnelle, quoi. C'est quand même, je préparais mes scénarios, je faisais évoluer mes joueurs dedans.
Ensuite, les parties de jeux de rôle très histoire, c'est venu aussi probablement d'une envie de certains maîtres de jeu au fil du temps où tout d'un coup, comme tu es le maître de jeu, tu as l'impression que c'est toi qui contrôle complètement ce qui se passe. Et donc, de plus en plus, tu as envie d'y mettre des idées à toi. Et de plus en plus, tu structures tes scénarios comme des fictions dont les joueurs vont être les personnages.
Oh oui,
enfin, en même temps, c'est ça. Mais,
ouais, en même temps, c'est un peu ça quand même. Ok, d'accord. Pour revenir, on a vu qu'il y avait à peu près trois types de préparation. Il y a une préparation que je vais appeler lourde, même si c'est un peu péjoratif. c'est pas péjoratif, mais en tout cas un peu avancé, on va dire, dans lequel on va...
Intensive,
dans lequel on va préparer, on va imaginer la manière dont les personnages vont s'impliquer. Et on va faire en sorte que le scénario soit à peu près sur les rails, ou alors préparer, on va dire, des sorties de piste acceptables.
Plus tout le côté préparation, préparer les stats, se faire les petites fiches pour préparer les combats,
exactement.
Tout ça.
Donc ça, c'est la première étape, c'est ce qui se passait jusqu'à peu et ce qui continue à se passer beaucoup, on va dire que ça reste la majorité. Il y a la deuxième partie de la préparation qui est quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus léger, où on se contente d'apporter des idées qui vont être ensuite injectées à l'ensemble de la création commune. Et il y a la troisième partie où on joue carrément en sans préparation, en total impro, avec soit des aides de jeu type des cartes ou des choses comme ça, soit des tables. Il y a beaucoup, par exemple, dans les jeux récents, Nanochrome ou Dragon de Poche, il y a par exemple plein de tables qui permettent de générer, ça existait déjà avant, de générer des morceaux d'histoire comme ça à la volée sur lesquels tout le monde peut rebondir. Et le MJ a un rôle beaucoup pas moins important, mais différent de ce qu'il était avant. Et il est plus dans un rôle de colleur de morceaux, voilà, et d'arbitre. De dernière parole, quoi.
Et c'est là où tu t'aperçois qu'en jeu de rôle, t'as une obligation, je pense qu'il y a une obligation de cohérence qui est moins forte qu'en fiction, enfin en roman. Ouais. Mais quand on est autour d'une table de jeu de rôle, on a envie de faire une partie, on a envie de raconter une histoire sympa. Et en fait, on se retrouve à être plus tolérant, surtout quand c'est de la narration partagée, c'est-à-dire vraiment un jeu où tout le monde apporte des éléments. On se retrouve, je pense, à être plus tolérant des incohérences de scénario parce qu'elles passent à l'arrière-plan du plaisir qu'on éprouve à raconter une histoire.
Ouais.
Et encore plus avec des modes de jeu où tu rajoutes des bribes au fur et à mesure, où tu amènes tes idées et où il faut faire finalement un petit travail de rétrocompatibilité. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête et surtout, il ne faut pas s'arrêter et commencer à décortiquer en se disant il faut que ça soit super cohérent. C'est pas l'idée.
Tout à fait. On en reparlera la prochaine fois de la cohérence et de la suspension d'incrédulité.
Oh là, évitant de déborder vers le cinéma.
Pas forcément, et justement, on va reparler du world building ou des choses comme ça. Écoute, merci François et à la prochaine.